Rebel Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebel Hebdo, le magazine hebdomadaire de notre web radio Micro Rebel, que vous pouvez suivre en direct chaque semaine, le vendredi de 18h à 19h, sur notre site internet micro-rebel.fr ou au travers de l'appli de la Franf, émission qui était également rediffusée par nos amis de Radio PFM 99.9 ou en DAB+, dans l'Arageois, rediffusion le vendredi soir à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Nous sommes donc de retour en direct dans nos studios et au programme de ce micro-rebelle hebdo, l'agenda social et culturel, puisque les initiatives commencent fort heureusement à reprendre, à initiative militante, initiative culturelle aussi. Au programme actualité et revue de presse, reportage, chronique et musique libre. Donc je le disais sans qu'il y ait forcément beaucoup d'annonces aujourd'hui. On vous propose néanmoins un agenda social militant qui vous est proposé par Aurélie.
On se retrouve le samedi 6 juin pour la journée internationale contre la 5G. Le rassemblement se fera près du marché d'Arras, entre la place des Héros et la grande place dès 10h. La 5G est le nouveau standard pour la téléphonie mobile. Elle est censée répondre à l'accroissement de l'offre et de l'utilisation d'objets connectés. Or, cette technologie pose des problèmes fondamentaux, notamment sur le plan écologique, avec l'utilisation de métaux rares qui ne sont pas recyclables ou qui le sont difficilement. La consommation d'énergie va s'accroître, elle aussi, demandant 3 fois plus d'énergie qu'actuellement. Encore plus grave, que savons-nous vraiment de l'impact des ondes sur notre système neurologique ? Que faire ? S'informer dans un premier temps et entrer en résistance. Et surtout, questionner les élus. Posez-vous les bonnes questions pour votre propre bien-être et celui des personnes qui vous entourent. Le monde de demain ne peut être un monde uniquement technologique. Pour cela, rendez-vous le samedi 6 juin près du marché d'Arras, dès 10h. Toujours le samedi 6 juin, il y aura un rassemblement contre les crimes racistes à 15h, place de la République à Lille. N'hésitez pas à y faire un tour pour manifester contre ces crimes impunis. Et enfin, le jeudi 11 juin, cette fois-ci, c'est la réouverture du magasin gratuit du Lag, 23 avenue Jean Jaurès. Après plusieurs semaines de confinement, le magasin gratuit redémarre, le jeudi 11 juin de 14h à 16h. N'hésitez pas à y faire un tour avec votre masque. Comme son nom l'indique, le magasin gratuit est gratuit. Il propose notamment des vêtements enfants et adultes, des livres, de la vaisselle, des chaussures ou encore des CD et des DVD, de la déco, des jouets et plein d'autres choses. On vous y attend.
Eh bien, merci Aurélie. Donc, on poursuit avec notre rubrique actualité et revue de presse, avec plusieurs sujets. Alors, je vais commencer par ce qui concerne les suppressions d'emplois à Renault. Alors, on en avait parlé la semaine dernière. Avec ce titre dans La Voix du Nord, Maubeuge, un peuple se lève. Des milliers de personnes ont défilé hier, donc c'était dimanche, alors que l'usine automobile MCA craint le pire après les annonces de suppression de postes au sein du groupe Renault. Et également, pour décrire un peu cette manifestation, un peuple se lève, un autre titre, toujours dans la Voix du Nord, à Maubeuge, une marée humaine pour défendre l'usine MCA. Plusieurs milliers de personnes, poursuit la Voix du Nord, ont défilé hier matin dans les rues de Maubeuge pour la sauvegarde de MCA, une usine filiale de Renault menacée par un projet de délocalisation vers Douai. Un signal fort envoyé à 3 jours d'un rendez-vous entre les organisations syndicales et le ministre de l'Économie. Et le journal poursuit, une mobilisation monstre, inédite dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, pour contrer le projet de délocalisation de l'outil d'assemblage de la marque aux losanges vers son site de Douai. Dès 9h hier, la foule compacte s'est massée autour de l'entrée de l'usine, de quoi donner du baume au cœur aux ouvriers en lutte. Les gens comprennent que si on disparaît, c'est tout le territoire qui s'effondre, lâche Alexandre, technicien sur la chaîne d'assemblage du Kangoo. Fin de citation de cet article de La Voix du Nord. Alors on peut rappeler que l'usine de Maubeuge compte 2200 salariés, dont 600 en intérim, CDD ou autres contrats précaires. Et puis rappelons également qu'en 2018, un plan d'investissement de 450 millions d'euros en 5 ans avait été annoncé par Carlos Ghosn, à l'époque PDG de Renault, à l'occasion d'une visite d'Emmanuel Macron chez MCA. L'annonce du projet de délocalisation vers Douai a donc suscité stupeur et incrédulité, tout d'abord, et c'est ensuite la révolte qui s'est exprimée. Et en se mobilisant, en montrant qu'ils ne sont pas prêts à se laisser faire, les travailleuses et travailleurs de MCA ont obligé Renault à revoir sa copie, comme l'indique ce nouvel article dans La Voix du Nord. Renault plie et s'engage pour sanctuariser, avec des guillemets, l'usine MCA. Le journal décrit la table ronde entre l'État, l'intersyndicale, les élus locaux et la direction du groupe Renault a abouti hier sur des engagements forts de la marque aux losanges sur l'avenir de MCA. Un soulagement pour tout un territoire. L'article décrit notamment « La Sambre avesnoise peut respirer ». MCA ne fermera pas et ne deviendra pas une coquille vide. C'est en tout cas l'engagement qu'a pris Renault hier midi à l'issue de la table ronde organisée par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Fin de citation. Alors bien sûr, ce ne sont que des assurances verbales. Renault maintient ses objectifs d'économie dans le but de satisfaire ses actionnaires. On peut s'attendre à ce que l'entreprise et l'État actionnaire tenteront d'imposer des contreparties aux travailleuses et travailleurs du groupe, à moins que cette belle mobilisation, cette belle lutte à MCA Maubeuge ne donne des idées au personnel des autres usines du groupe. Alors une deuxième actualité qui n'est sans doute pas sans lien avec la précédente, c'est ce titre sur le site du Figaro. Dopé par le déconfinement, la Bourse de Paris passe le mur des 5000 points. Et le Figaro évoque l'espoir d'une reprise économique plus rapide que prévu stimule les marchés. Le CAC s'est envolé de 3,36% à 5022,38 points. La Bourse de Paris, poursuit l'article, a fini en nette progression, reconquérant au passage les 5000 points, toujours portés par l'espoir d'une reprise économique. L'indice CAC 40 a pris 36% à 5022 points, un sommet inconnu depuis le 6 mars. La veille, il s'était déjà adjugé plus de 2%. Ni l'expansion continue du coronavirus au niveau mondial, les tensions sino-américaines, ni même les émeutes aux États-Unis ne parviennent à entamer la bonne humeur des investisseurs. Depuis les plus bas de mars, les marchés regagnent progressivement le terrain perdu grâce à la combinaison d'un assouplissement illimité des banques centrales et les perspectives de relance budgétaire de grande ampleur, expliquent les spécialistes de CMC Markets. Les marchés profitent toujours des vastes plans de relance budgétaire et monétaire et des premiers signes de reprise. L'activité dans les services en Chine a connu en mai son plus fort rebond depuis 10 ans, selon l'indice PMI indépendant. C'est la première fois depuis janvier qu'il est en territoire positif. Fin de citation. Donc c'était un extrait du site du Figaro. Alors depuis, que peut-on en penser? Alors que 700 000 jeunes s'apprêtent à se casser la tête pour entrer dans le monde du travail, alors que les plans de licenciement s'annoncent dramatiques, la bourse flambe et les investisseurs, les boursicoteurs, les actionnaires se frottent les mains. On marche donc sur la tête et notre système économique n'a jamais été aussi inégalitaire et indécent. Il faut dire que la bourse a de quoi être euphorique puisque, comme au moment de la crise de 2008, les États injectent massivement de l'argent dans l'économie, une économie qui était déjà mal en point avant le Covid-19. Plus de 100 milliards ont déjà été annoncés concernant l'État français, ce qui fait quand même 7% du produit intérieur brut marchand de l'an dernier. Et ce n'est sans doute qu'un début. D'où la question que tout le monde est en droit de se poser. D'où vient tout cet argent ? La réponse est finalement assez simple. La Banque Centrale Européenne, la BCE, fait tourner la planche à billets et crée de l'argent afin que les banques nationales soient en mesure de prêter de l'argent à leur État national. Rappelons que les propriétaires, en quelque sorte, de la BCE, ce sont les États. Ce qui revient à dire que les États se prêtent de l'argent à eux-mêmes via la BCE. Alors évidemment, les États qui se voient prêter de l'argent s'endettent. Les États s'endettent et misent sur le retour d'une croissance soutenue qui fera rentrer de l'argent dans les caisses, ce qui permettra de rembourser la dette. Le problème, c'est que, avant le coronavirus, l'endettement, par exemple, de la France était déjà significatif. Il fallait une croissance de plus de 4% pendant 20 ans pour rembourser la dette antérieure. Or, une croissance de plus de 4%, on sait que ça n'arrivera plus jamais. C'est ainsi que fonctionne notre économie capitaliste. On a une dette qui sera probablement jamais remboursée. Certains économistes parlent d'ailleurs de dette perpétuelle. Il s'agit de financer une croissance économique sans limite à coût d'endettement infini. Par exemple, la Voix du Nord aujourd'hui indique que malgré la crise et malgré la chute du trafic aérien, le projet d'agrandissement de l'aéroport de Lille est complètement maintenu. Mais revenons à notre croissance et à notre dette infinie. On imagine comment cela peut se terminer. Les États ne remboursent pas les banques prêteuses et c'est donc la faillite bancaire totale. Le problème, c'est que pour tenir, ce régime économique, le capitalisme, doit faire preuve d'une violence inouïe envers les pauvres, les précaires, les derniers de cordée. Il est temps d'en changer. Dans l'actualité, enfin, il nous faut évoquer les événements de Minneapolis. Je les évoque au travers de quelques titres et sous-titres cette semaine dans la presse locale. Minneapolis s'embrase après la mort d'un Afro-Américain tué par la police. George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est décédé lundi soir juste après avoir été arrêté par la police qui le soupçonnait d'avoir voulu écouler un faux billet de $20. Les autorités américaines ont décidé jeudi d'envoyer des renforts à Minneapolis pour contrer de nouvelles violences après deux nuits de heurts. Ou encore, des soldats déployés après une troisième nuit d'émeute, les villes américaines sous haute tension après la mort de George Floyd. Et encore, les États-Unis empêtrés dans un chaos dramatique. Les États-Unis vivent dans le chaos depuis une semaine. Le décès de George Floyd, un quadragénaire noir mort étouffé sous le genou de Derek Chauvin, policier blanc, a soulevé une lame de fond. Le racisme, à notre titre, une réalité qui saute à la figure des politiques. Et enfin, ce dernier titre, histoire d'une Amérique qui étouffe de ses tensions sociales et raciales. Alors bien sûr, ces titres et ces événements nous ramènent au mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent, ce mouvement afro-américain qui se mobilise contre la violence et le racisme systémique envers les Noirs. Je vous propose d'écouter la chronique d'Aurélie à ce sujet.
Black Lives Matter. Vous avez sans doute entendu ce slogan ces derniers jours. Comme vous le savez probablement, il n'est pas nouveau. Cela fait déjà des années qu'il existe. Étonnant qu'en 2020, nous sommes encore obligés de rappeler à tout et à chacun que non, la violence policière n'est pas à prendre à la légère. Et que oui, malheureusement, quoi qu'on en dise, elle touche une certaine partie de la population. Il est souvent compliqué d'aborder ce sujet, parce que plein d'amalgames se mêlent à l'usage de certains mots. Parfois, on peut même en devenir gêné de dire le mot noir. Parce qu'à contrario, on n'utilise jamais le mot blanc pour se définir. Depuis quelques semaines déjà, les gens semblent réaliser qu'il y a un problème de racisme, et pas qu'en Amérique, partout dans le monde. On se plaît souvent à croire que non, en France, nous ne sommes pas racistes, que nous prônons l'égalité, mais souvent il s'agit juste d'une excuse pour éviter de voir ce qui en est réellement. À Micro-Rebelle, nous médiatisons les affaires comme celle d'Henri L'Enfant, victime de violences policières dans le bassin minier. peut-être même que vous n'en avez jamais entendu parler. Et c'est là le problème. Le problème aujourd'hui est que ces violences policières sont banalisées. Elles sont devenues normales. Alors que non, nous ne sommes pas aux États-Unis. Encore heureux, ce n'est pas tous les jours qu'une personne noire se prend une balle. Mais est-ce juste? Devons-nous nous contenter de ça? Personne ne devrait se prendre de balles. Et en fin de compte, personne ne devrait être victime de sa couleur de peau. Pourtant, on le sait. En France ou ailleurs, dans les cas les plus extrêmes, une personne se fait tuer à cause de sa couleur de peau. Et dans les cas considérés comme moins graves, on trouve tout de même le racisme, la difficulté à trouver un travail, le délit de faciès. Banaliser ces actes n'est pas acceptable en 2020, il ne l'a jamais été. Alors qu'en ce moment, les États-Unis sont sous le feu des projecteurs pour ces mêmes raisons, en France, on s'insurge aussi. Pourtant, les médias ne le montrent pas. En pleine crise épidémique, des milliers de personnes se rassemblent pour soutenir une cause, celle de ceux qui se font opprimer par la société depuis des siècles. Bien sûr, le gouvernement ne met pas de projecteurs sur ces manifestations, car de toute évidence, cela ne va pas redorer son blason. Les gilets jaunes, la grève des enseignants, l'échec de la gestion de la crise épidémique, et maintenant, Black Lives Matter. Ça commence à faire beaucoup pour un gouvernement qui, de toute évidence, est sur le qui-vive. Car oui, le gouvernement n'est pas en capacité de fournir des masques à tous les Français. Par contre, on a un stock de gaz lacrymo à écouler. Mais ça, on n'en parle pas. Et malheureusement, bien souvent, dans un monde comme le nôtre, quand on n'en parle pas, ça n'existe pas. Alors, parlons-en.
Alors effectivement, comme le souligne Aurélie, le racisme et les violences policières, ce n'est pas qu'en Amérique. Aurélie évoquait près de chez nous à Fouquier-les-Lances, Henri L'Enfant, membre de la communauté des gens du voyage, abattu par un gendarme, membre du GIGN. Henri L'Enfant n'avait aucune arme. Cette semaine, mardi 2 juin, des milliers de manifestantes et manifestants sont descendus dans la rue, en exigeant justice pour Adama Traoré. D'après la police, les chiffres sont de 20 000 à Paris, 1 000 à Lyon, et des centaines dans plusieurs villes de France. À Lille, le compte-rendu de la Voix du Nord précise « Un millier de personnes ont défilé, mardi 2 juin, dans les rues de Lille, pour honorer la mémoire de George Floyd. Un rassemblement qui est rapidement devenu une manifestation contre toutes les victimes de violences policières, avec un cortège non autorisé qui s'est formé pour partir vers le centre-ville. Il est vrai que les cas de George Floyd aux USA et Adama Traoré en France présentent de nombreuses similitudes. Adama Traoré est mort entre les mains des gendarmes suite à une interpellation musclée en juillet 2016. Plus récemment, à Bondy, en Seine-Saint-Denis, un ado de 14 ans se fait tabasser par 4 policiers après une tentative de vol. C'est un jeune Rom qui souffre d'un traumatisme crânien et qui pourrait perdre son œil. Tout ça commence à faire beaucoup. Et c'est sans doute ce qui a poussé le député Les Républicains Éric Ciotti a déposé une proposition de loi interdisant de filmer les policiers. C'est vrai quoi, il y aurait beaucoup moins de problèmes si on arrêtait de montrer la violence policière. Cette violence, on ne s'y trompe pas, elle est bien le fait de personnes, d'individus, mais plus largement, c'est toute l'institution policière qui est imprégnée de racisme et de haine des pauvres. Parce que c'est sa fonction. Défendre et protéger un système qui repose sur l'exploitation du nombre de pauvres au profit d'une minorité de riches. Aux États-Unis comme en France, les populations immigrées, noires, roms, subissent et vont subir encore davantage la vague de chômage en cours. Ces communautés sont particulièrement frappées par les maladies, elles pratiquent des métiers difficiles, elles subissent la misère de plein fouet. Cette semaine, aux États-Unis, en France, de belles révoltes voient le jour, de belles manifestations que la police du ministre de l'Intérieur entend disperser, de belles luttes que le pouvoir entend museler.
Web Radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
She was struck, dumber than a detour. quicker than a pistol shot. Revving like a motor, hotter than a parking lot, hotter than a parking lot. And his eyes beckon like a lighthouse, sparkle like a forest rim, promising. Just as a missionary, hopeful as a ballot box, cautious as a cold canary, wily as a winter fox. But he ran crazy as a hatter, he panicked like a pot to boil. Oh, he was hissing like an adder, spitting like a vat of oil, spitting like a vat of oil. And her heart fell out of her chest and split, scattered like a house of cards. Now anyone who touches it cuts their knuckles on the shards, cuts their knuckles. Tougher than a tortoise, sadder than a coffin crew. But what fool keeps hanging on to something after it has fell apart? Hey you, send it to the warehouse, get yourself another heart, get yourself another.
Musique libre sur Micro Rebelle avec Carcy Blanton, une chanteuse de la Nouvelle-Orléans, pianiste et guitariste. Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, le magazine hebdomadaire de notre web radio Micro Rebelle, sur micro-rebelle.fr, sur l'appli de la France, hein, chaque vendredi en direct de 18h à 19h. Rediffusion chez nos amis de Radio PFM que nous remercions. Reportage maintenant, Aurélie l'a évoqué dans l'agenda qu'elle nous a présenté. Le samedi 6 juin, manifestation à Arras contre la 5G. En amont de cette manifestation, pour avoir un petit peu d'éclairage, un peu de contexte, un petit peu de repère sur les enjeux, un reportage de Luc avec l'association ACAD, association contre les compteurs communicants dans l'Artois et le Douaisis.
Nous sommes avec Pierre Rose, membre du collectif ACAD pour anti-compteurs communicants Artois Douaisis, avec qui nous allons parler du développement de la 5G et également de la mobilisation qui est en train de se mettre en œuvre en France, localement, mais aussi à travers le monde, contre cette nouvelle technologie. Alors Pierre, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la 5G ?
En fait, il faut relier la 5G avec d'autres problématiques qui sont, par exemple, les débits mobiles qui sont encore plus puissants qu'avant, les objets connectés, les voitures autonomes, évidemment, la télémédecine, tout ce qui a rapport, évidemment, avec l'informatisation au niveau des écoles. Donc, tout ça forme un bloc, c'est-à-dire qu'il y a besoin de plus en plus, enfin, d'après les pouvoirs en place, il y a besoin de plus en plus d'avoir du débit. Et donc, ils donnent l'impression qu'il faut passer à la 5G parce que la 4G n'est pas suffisante. Alors la 5G, ça veut se mettre en place, ça commence déjà à être un objectif pour trois communes importantes, c'est-à-dire Marseille, Nantes et Lille, d'ici la fin de l'année. Ce qui veut dire que concrètement, il faut essayer d'expliquer pourquoi, à quoi sert la 5G d'une part, et pourquoi nous sommes opposés. On est dans une société qui est toujours plus, c'est-à-dire que on ne se suffit pas à ce qu'on a, on essaye toujours d'avancer et de faire en sorte qu'il y a un nouveau besoin, et ce nouveau besoin, il faut le créer. Il y a certainement plus de débit qu'avant, il y aura certainement des millions et des milliards même d'objets connectés. Le seul problème, c'est que, est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là? Est-ce qu'il faut aller dans une société qui sera de plus en plus déshumanisée? C'est ça la problématique. C'est en ce sens-là qu'il faut poser la question principale. Enfin, l'objectif essentiel de cette société, c'est de nous faire accepter tout ce qui est connecté. C'est dangereux. C'est d'autant plus dangereux qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont se poser. Alors, la 5G par rapport à la 4G, c'est quoi? Ben, c'est 10 fois plus rapide. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez à télécharger un film qui dure 1 minute pour la 4G, ça durera 6 secondes, c'est-à-dire 10 fois moins. Donc, effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant, en même temps, ça veut dire que il va falloir mettre en place toute l'infrastructure. Alors, cette infrastructure, elle est composée de quoi? De satellites. Il en faut environ 50 000 satellites autour de la Terre qui vont graviter, qui vont avoir une répercussion, une importance sur tout ce qui a rapport avec le climat, tout ce qui a rapport avec la Terre en général. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comme ce sont des ondes qui sont beaucoup plus puissantes, on va passer non pas à des mégahertz, mais à des gigahertz. Ça va aller de 60 à 600, à peu près 600 gigahertz. Ça veut dire que les ondes ne se mesureront plus en centimètres, mais en millimètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très technique. Mais surtout, ça veut dire qu'il y aura besoin de beaucoup plus d'antennes. Concrètement, ça veut dire qu'il faudra des antennes relais tous les 100 mètres. Le résultat, c'est qu'il y aura besoin de grandes antennes qui vont être posées, qui commencent à se poser, et il y aura besoin de petites antennes. Alors les petites antennes, on ne les verra pas. Ce sera dans le parc publicitaire, dans les abribus, etc. Concrètement, on va être envahi. Donc envahi d'ondes. Et voilà le problème, le double problème.
Alors avant de revenir sur les dangers, j'essaye de aussi faire le lien avec le fait que tu sois membre d'ACAD et que le moteur principal de ce collectif, c'était la lutte contre les compteurs communicants, les compteurs Linky notamment. Et quand tu parles des usages, en fait, ces usages n'existent pas. C'est plutôt un projet qu'on nous propose, en fait. Linky, par exemple, symbolise ce type de projet de la connectivité, du flux permanent, de l'Internet des objets. C'est ça aussi qui est un enjeu de société.
Linky, les compteurs communicants en général, c'est-à-dire Linky pour l'électricité, Gaspar pour le gaz et eau en général, il y en a plusieurs, fait partie des éléments de départ, c'est-à-dire c'est la première marche qui est concrète. Pourquoi c'est concret? Parce que ces compteurs-là sont des compteurs qui sont non seulement qui analysent notre consommation, mais surtout qui captent des informations, qui captent des données. Et ces données-là vont servir. C'est-à-dire que Linky récupère toutes ces données, Enedis récupère toutes ces données pour les vendre. C'est ce qu'on appelle effectivement le big data. Sur les différentes radios et tout ça, vous en avez entendu parler. Et je pense que Microrebelle n'est pas à court d'informations là-dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très important et qui fait comprendre mieux la problématique du compteur Linky. Parce que le compteur Linky, c'est un des éléments qui montre un petit peu l'évolution de la société vers quelque chose d'informatisé, de connecté. Et là, on a après ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire tous les objets connectés, le Smart City, les voitures évidemment autonomes, hein, encore que je doute fort qu'on ait des voitures autonomes parce qu'ils auront un certain nombre de problèmes. Ils ont déjà eu pas mal d'accidents là-dessus. C'est ça notre atmosphère, notre évolution et notre évolution qui est tout de même assez dangereuse parce que de plus en plus, on va mettre l'homme à côté. Hein. Et je prends un exemple très bête. Hein. Avec toute cette évolution, on risque d'avoir des réfrigérateurs qui vont nous dire qu'il manque telle ou telle chose. On risque d'avoir des appareils qui vont nous dire qu'on a bien dormi la nuit. Il y a des appareils qui vont nous dire que le dentifrice, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Ou bien il faut peut-être frotter un petit peu plus les dents, etc. Enfin, tout ça, c'est pour nous dire. Et même, on ira même jusqu'à avoir des projets qui diront à telle ou telle personne, vous mangez trop de choses un peu trop, comment dire, grossissantes. Et donc, si vous continuez comme ça, votre assurance ne vous prendra plus en charge, etc. Bon, ce sont des exemples.
Concernant les dangers, donc, on comprend que la 5G pose le problème en fait, de ces radiofréquences qui peuvent avoir un effet négatif sur la santé. Alors, est-ce que ces dangers ont été avérés? Est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées? Ou est-ce que c'est plutôt en vertu d'un principe de précaution?
Alors, pour ne pas trop baratiner, je vais simplement lire une petite partie de texte qui résume très bien la situation au niveau de la santé. Il y a plus de 10 000 études scientifiques dotées de comités de lecture qui prouvent la toxicité des ondes électromagnétiques artificielles et leur lien avec l'augmentation des risques de cancer, de diabète, de pathologies rénales, cardiaques et neurologiques. Et évidemment, chacun sait que ça occasionne des problèmes au niveau des gens qui sont électro-hypersensibles. Chacun est électrosensible. Ça, c'est clair, on est tous sensibles à l'électricité. Différentes personnes peuvent très bien développer ce qu'on appelle l'électro-hypersensibilité, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus réceptifs à un certain nombre d'ondes. Et là, on n'est plus dans le 50 Hz comme c'était au départ, on est dans les gigahertz, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus, encore plus dangereux et beaucoup plus grave, ce qui fait que, comme on veut en plus supprimer toutes les zones blanches, ça veut dire quoi des zones blanches? Ça veut dire des zones où il n'y a pas d'ondes. On va évidemment avoir des cas beaucoup plus importants et l'augmentation de l'électro-hypersensibilité est déjà au programme de notre société. Pour montrer un petit peu pourquoi ceux qui ont négocié, qui pour l'instant voudraient bien que la 5G soit mise en place, qui voudraient bien que l'informatique soit à tous les étages, je vais donner un exemple d'un grand responsable américain qui met ses enfants dans une école où il n'y a pas d'informatique. Ça veut dire que concrètement, on est certainement moins intelligent quand on est dans une école avec l'informatique. Ça, c'est prouvé, ça a été dit dans certains bouquins. Un deuxième exemple, encore plus significatif, là je vais citer des noms, c'est Bill Gates et Trump, le célèbre président américain qui utilise la force en ce moment. Habite Miami, à Miami, autour de Miami, il n'y a pas d'antenne 5G. Pas du tout. Donc ça veut dire, faites ce qu'on vous dit de faire, ne faites pas comme je fais. Et évidemment, en France, on est spécialiste. C'est-à-dire qu'on part du principe que les études étrangères ne sont pas fiables. Et nous, comme on n'en fait pas, parce qu'on est sûr qu'on a raison, eh bien, les ondes électromagnétiques ne sont pas dangereuses. D'après les dirigeants, évidemment, d'après ceux qui vont nous imposer la 5G. Ça, c'est le premier volet de la problématique 5G.
Et alors, quel est le deuxième volet?
Vous en avez déjà entendu parler avec tout ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus surveillé. Et surveillé, ça veut dire qu'on saura exactement à partir de tout ce qui se passe au niveau de ces ondes, puisqu'elles vont se divulguer partout. Si on laisse faire, hein, vont se divulguer partout. Donc on aura la mise en place de tout ce qui fait la joie des Chinois, c'est-à-dire par exemple la reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale, bah, ça veut dire que ça commence à se mettre en place, hein, parce qu'il y a deux pays qui sont à la pointe de cette problématique. Actuellement, c'est la Chine et Israël. La Chine s'implante en France avec une entreprise que certains connaissent qui s'appelle Huawei. Et cette entreprise a le marché des caméras à Valenciennes. Alors évidemment, ils ont tout de suite dit que ce ne sera pas des caméras avec reconnaissance faciale. On peut les croire, puisqu'ils ont toujours l'habitude de mentir. Donc on les croit évidemment à fond. Donc ça, c'est un élément. Et ça va se démultiplier. À Nice, comme ils ont été victimes d'un attentat le 14 juillet, ils sont en cheville grâce à au célèbre maire de la commune qui s'appelle Christian Estrosi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait appel à qui ? À une entreprise israélienne en disant que si on n'avait pas ça, on ne faudra pas s'attendre à des jours heureux à Nice. Hein. Il faudra s'attendre à ce que les gilets jaunes envahissent la ville, que les terroristes soient à tous les coins de rue, etc. Donc tout ça, c'est fait pour faire peur et ça se met en place. Et malheureusement, c'est-à-dire qu'on est dans une société où on a de plus en plus de caméras. Pour donner un exemple, à Hénin-Beaumont, il y a 221 caméras. Une commune, au moins, là, on est sûr qu'il n'y a personne qui va passer à travers les mailles du filet. On est actuellement dans une période où il y a de graves problèmes. Comment dire, on a été hypnotisés pendant 2 mois. Je dirais, quand je dis 2 mois, ce serait plutôt 3 mois. Incapables de bouger parce que le gouvernement nous a empêchés de bouger. Et maintenant, on a du mal à se réveiller alors qu'il faudrait temps de se réveiller. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que les opérateurs n'ont pas perdu leur temps pendant le confinement.
Justement, je voulais qu'on discute un peu de ce calendrier pour la mise en place de cette nouvelle technologie qui est la 5G. Parce que, effectivement, quand on parle de société des objets connectés, quand on commence à comprendre le lien qu'il faut faire entre ces objets connectés et la surveillance généralisée des populations, on commence à avoir des images de science-fiction presque dans la tête. Or, au contraire, cet Internet des objets et la mise en place de cette technologie est imminente.
Je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que j'ai oublié un élément qui est extrêmement important, c'est que le danger de la 5G, ça ne va pas seulement impacter les humains, mais ça va impacter la nature. C'est-à-dire la nature, ça veut dire tout ce qui est végétal et tout ce qui est animal. Et là, ça va avoir des répercussions assez importantes. Et donc là-dessus, il faut faire très attention parce que c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux que la 4G. Alors, le programme, le planning, il a été facilité par le confinement. Pourquoi ? Parce que le confinement a débuté le 17 mars. Le 23 mars, il y a une loi d'urgence qui a été votée évidemment par tous les godillots, tous les marcheurs, sans aucun problème, puisque évidemment il y avait une urgence indispensable. On n'avait pas de masque, mais c'est pas grave. Et donc, à la suite de ça, 2 jours après, le 25, il y a eu des ordonnances qui auront des répercussions au niveau social. Je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas l'objet. Mais surtout une ordonnance, l'ordonnance numéro 6, qui permet aux opérateurs de monter des antennes relais le plus facilement possible. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur les antennes relais. Les antennes relais, auparavant, du temps de Hollande, au début de l'ère Hollande, les antennes relais, il fallait avoir l'accord de la mairie pour pouvoir installer ces antennes. Il fallait évidemment que le dossier soit complet, hein, soit bien travaillé pour qu'on empêche l'implantation de ces antennes. Hollande a réussi à favoriser déjà les opérateurs avec la pression. Hein, les lobbies sont très très importants au niveau des opérateurs de portables et tout ça, enfin des opérateurs téléphoniques. C'est une engeance qui est très efficace en France et en Europe. Donc, Hollande a fait changer et a dit « Les antennes relais, maintenant, ce n'est plus de la compétence des mairies, c'est de la compétence des propriétaires. » Alors évidemment, les opérateurs ne sont pas idiots, hein, ils essayent tout de même d'amadouer les mairies. Donc comment ils les amadouent? Tout simplement en leur donnant de l'argent. Et ça, c'est ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que pour un autre compère de Enedis, c'est-à-dire RTE. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est en jeu, on lance la pierre et puis on dit si vous faites ça, vous aurez de l'argent. Comme les communes sont un peu moins dotées au niveau de l'État, obligatoirement, vous allez avoir des communes qui vont accepter ce chantage et qui vont recevoir de l'argent. Hein. Je peux citer un exemple très typique dans le coin, c'est le vin blanc que le maire, qui est en même temps président de la Douaisie Aglo, qui est premier adjoint au département, lui est très copain avec Enedis et donc a de l'argent de la part d'Enedis. Hein, en veux-tu, en voilà. Alors ça c'est déjà une petite évolution. Mais l'évolution supplémentaire est venue pendant le confinement. C'est-à-dire que maintenant, les communes non seulement n'ont plus rien à dire, mais les organismes qui devaient vérifier le dossier de façon très pointilleuse, encore qu'ils ne le faisaient pas très bien, mais enfin, on n'a plus besoin de passer par eux. On peut directement faire monter des antennes relais chez différentes personnes, par exemple chez différents propriétaires, sans qu'il y ait l'accord, par exemple, de l'Association nationale des fréquences, ou bien de l'ANSES. C'est un organisme de scientifique qui s'occupe de l'économie et du social, et puis de l'environnement, d'ailleurs. Eh bien, ils en ont profité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'antennes qui ont été montées pendant cette période. Alors, je vais citer l'exemple de deux exemples. Un exemple à Angres, donc près de Lens. Ça s'est passé avant le confinement. Bouygues a voulu monter une antenne relais près des voisins, près des habitants. Aucun complexe, hein, même si ça dérange, même s'il y a de la pollution, c'est pas vrai. Et donc, il faut savoir qu'à Angres, il y a déjà trois antennes relais qui couvrent largement la commune. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'antennes relais. Alors pourquoi on en monte une quatrième avec Bouygues? Eh bien, tout simplement pour la 4G, pour la 5G. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'antennes, de multiplication d'antennes. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? La maire de la commune ne s'est pas rendue compte de la problématique et a accepté la pose de cette antenne relais. Pourquoi elle a accepté? Parce que c'est sur un terrain de football. C'est-à-dire un terrain qui appartient à la commune. Voilà, un premier exemple. Deuxième exemple, pendant le confinement, une personne qui habite Rouvroy a eu la désagréable surprise de voir que, pas loin de chez elle, se montait une antenne. Alors, il faut savoir que maintenant, les antennes se voient pas facilement. Pourquoi? Parce qu'on joue avec l'artistique. C'est-à-dire que... On fait croire que ce sont des arbres synthétiques, on fait croire que ce sont des œuvres artistiques, etc. On ne voit pas les antennes. Si, on le voit parce que c'est quelque chose d'assez élevé. Parce que, faut pas l'oublier, les antennes 5G ne se propagent pas facilement. Puis c'est pour ça qu'il y a besoin de beaucoup d'antennes. Et c'est ce qui se passe à certains endroits. On est obligé de couper les arbres pour permettre le passage des ondes. Donc effectivement, il faut que les grandes antennes soient à un niveau assez élevé pour pouvoir transmettre leur nocivité aux petites antennes. Ça, c'est à Rouvroy. C'est un endroit qui est très bien parce que c'est un endroit, une zone industrielle. Il n'y a personne qui va râler puisque la nuit, les gens ne sont pas là. Donc ils vont être gênés éventuellement pendant la journée, mais ils ne vont pas être gênés 24 heures sur 24. Par contre, les gens qui sont aux environs, là, vont être gênés. Bon, c'est le planning grâce au confinement. Ensuite, le planning, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va se faire au niveau des trois communes. Et d'ici la fin de l'année, il faut que ce soit mis en place. Ce n'est pas seulement l'implantation, mais c'est aussi la mise en place du réseau. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est ça qu'il faut, pour lequel il faut se battre. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait comment dire, du relâchement de la part des opérateurs. Bien au contraire, il y a un marché très juteux par derrière, d'une part, et d'autre part, si on le laisse faire, on aura tous les inconvénients que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, je ne dis pas pousser un cri d'alarme, mais c'est urgent d'intervenir. C'est quelque chose qui est extrêmement important et extrêmement dangereux, et on ne s'en rend pas compte actuellement. Dans notre secteur, dans notre région, on n'a pas encore vu l'importance de cette problématique. Dans d'autres régions, ça commence à bouger, ça bouge beaucoup plus. Et dans d'autres pays, ça bouge nettement plus, hein, que ce soit en Belgique ou que ce soit en Suisse.
Alors, on a l'impression que toute l'attitude est donnée aux opérateurs pour développer, là, dès 2020, la 5G, et que par conséquent, il est aussi difficile de trouver des moyens de résistance au déploiement de cette technologie.
Il y a deux solutions, hein. C'est-à-dire que d'une part, il y a une solution, c'est de, lorsqu'on sait à quel endroit va s'implanter une antenne, c'est de mobiliser en direction de cette antenne et auparavant de mobiliser pour demander aux propriétaires de refuser ce type d'antenne en montrant un petit peu les enjeux et surtout les gros inconvénients. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est par nous-mêmes, c'est de boycotter un certain nombre d'applications, un certain nombre d'outils connectés qui, paraît-il, sont très intéressants, mais si on continue comme ça, on va en mourir, hein, pour deux raisons. La première, c'est que ces différents objets connectés ont besoin de métaux rares qu'on trouve dans la nature, en Afrique, en Chine aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de piller ces pays dans des conditions humanitaires qui sont scandaleuses. D'autre part, le gros problème aussi, c'est que ces métaux rares, comme ils sont mélangés avec d'autres métaux, ils ont la capacité à ne pas être, à ce qu'ils ne soient pas recyclables. Et on a un problème après, lorsque ces objets-là sont morts. C'est ce qui se passe avec les téléphones portables. C'est ce qui se passe avec un certain nombre de métaux que l'on voit dans les ordinateurs. Et tout ça va aller où? Ça va aller dans certains endroits, évidemment pas en France, hein, il faut le moins possible polluer. On est déjà assez pollué par le nucléaire. Il faut trouver une autre déchetterie. Alors la déchetterie, ça sera essentiellement certains pays asiatiques et l'Afrique. Et donc ça là-dessus, si on ne se bat pas, c'est l'humanité qui va trinquer. C'est pour ça qu'il faut urgemment poser le problème, non seulement informer, mais aussi boycotter et refuser de différentes façons. Hein. Je ne veux pas signaler certaines façons très très hardes qui ont été mises en place par certaines organisations à l'extérieur, mais disons que moi je serais éventuellement pour, hein, mais il faut aller très loin, c'est-à-dire que si on ne va pas assez, suffisamment loin, ça sera rien du tout, ça ne gênera pas les opérateurs.
Et alors quel pourrait être un calendrier des mobilisations contre la 5G?
Alors, on a déjà un petit peu commencé le 23 mai à Arras avec le rassemblement du collectif Ensemble pour le Climat à Rajoy, qui a permis de rassembler un certain nombre de militants devant la gare pour poser le problème de l'après-confinement. Et donc déjà, des militants ont posé des questions, des bonnes questions sur d'abord... Qu'est-ce qu'on fait après la 5G, après le confinement, et surtout qu'est-ce qu'on fait pour ne pas revenir à ce qu'on appelle la normale, mais essayer de profiter de ce qui était anormal pour essayer de se poser des bonnes questions. Alors les bonnes questions étaient posées, hein, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur la connectique, et la 5G a été posée également ce jour-là. Donc c'est déjà une première démarche qui est intéressante, mais c'est pas suffisant. On va ensuite samedi faire de l'information sur le marché d'Arras parce qu'il paraît important de commencer à sensibiliser les personnes qui ont l'impression, puisque ça ne se voit pas, hein, évidemment, l'avantage de la 5G, c'est que c'est quelque chose qui est... C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, hein, c'est-à-dire ça ne se voit pas, donc on ne sait pas quels sont les dangers. Donc on va faire quelque chose déjà samedi à Arras, samedi 6 juin à Arras, et ensuite on verra ce qu'on va faire. Mais on va pouvoir certainement profiter de d'autres éléments, d'autres événements, pour continuer à montrer la problématique, et il ne faudra certainement pas s'arrêter avec les vacances et certainement pas s'arrêter à la fin de l'année.
Pour faire le lien justement avec ce monde d'après dont on a beaucoup entendu parler et ce retour à la normale, il y a aussi un appel, cette fois national, pour la lutte contre la réintoxication du monde, c'est-à-dire la lutte contre les activités qui sont nocives à la nature, à l'humanité. Et donc, c'est aussi dans ce cadre que peut s'inscrire la lutte contre la cinquième génération des télécommunications. Donc, est-ce qu'on peut aussi parler de cet événement et de l'organisation un peu plus nationale, peut-être, dans cette lutte-là ?
Effectivement, on va s'intégrer dans cette action du 17 juin, parce que le gros avantage de cette journée, c'est qu'on pose le problème de notre société en général. Donc c'est pas seulement tous les problèmes qu'on a déjà... On a déjà vu un certain nombre d'évolutions pendant la période du confinement, qui n'a pas été négatif, hein, de ce côté-là, ne serait-ce que quand on a vu qu'il n'y avait plus que les camions, il y en avait tout de même de trop. Hein. Mais en tout cas, il y a eu moins de pollution. Il faut montrer que justement, cette pollution, c'est la pollution due à l'homme. Et donc, essayer de faire en sorte que ce rassemblement soit le plus effectif possible, le plus massif possible, et pour pouvoir faire avancer les choses. Sinon, on reviendra à ce qui est censé être la normale, et c'est-à-dire avec tous les inconvénients qu'on va avoir, hein, c'est-à-dire régression sociale et puis régression écologique. Et ça de ce côté-là. Donc, on va être partie prenante pour cette journée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet une globalisation des problèmes et des maux de notre société. Des maux MAUX, évidemment. Là-dessus, il faudra effectivement faire en sorte qu'on n'ait pas peur de ce régime macronien qui nous empêche encore de nous exprimer, parce que pour l'instant, il nous fait peur, il nous dit qu'il y aura une deuxième vague de coronavirus, hein, et tout ça, tous les jours, rabâcher, les gens commencent à se rendre compte ou veulent se rendre compte qu'il y a peut-être un problème, mais c'est aussi un bon moyen pour contraindre les gens. Et surtout, ce qui se passe, c'est que on a le droit d'aller à la plage maintenant, on a le droit d'aller boire un café, on a le droit de faire pas mal de choses, on a même le droit d'aller en vacances, à condition que les patrons soient d'accord. Mais on n'a pas encore le droit de se réunir, de se rassembler, de manifester. C'est-à-dire que pour l'instant, la mesure des rassemblements de plus de 10 personnes n'a pas été levée. Et il faut prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui ont commencé à montrer un petit peu qu'ils ne sont pas morts. Il faut prendre l'exemple de Maubeuge, où il y a eu tout de même 8000 personnes. L'exemple également de Paris, effectivement, une manifestation très importante à Paris, en soutien à toute la lutte que mènent les Américains contre le meurtre de George Floyd. Et donc, ça veut dire qu'il faut passer outre ça. Évidemment, il y a des amendes. Bien sûr, il y aura certainement des amendes. Mais si on ne fait rien, on va se laisser avoir, on va se laisser endormir, et on n'aura plus la possibilité de réagir, parce que tout sera fait, il y aura pas mal de choses qui seront faites, et après, on sera habitué à obéir et à devoir subir le smartphone, etc.
Dernière question, où est-ce qu'on peut trouver des informations ?
Alors, les informations, il y en a dans beaucoup de sites, hein, parce que nous, maintenant, on s'appelle toujours ACAD, mais on va avoir du mal pour changer de sigle, parce que Anti-Compteur Communicateurs Artois d'Ouesi, 5G, ACAD 5G, bon, on verra, je ne sais pas. En tout cas, sur le site du collectif ACAD, collectif-acad.fr, il y a des informations régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Ensuite, il y a différents sites. Il suffit de regarder sur un moteur de recherche, vous allez avoir des informations à n'en plus finir. Donc, par exemple, il y a un site Stop Linky 5G à Montpellier qui est très bien fait et qui donne des informations. Mais je veux pas faire de pub pour d'autres. C'est pas que ça me gêne. Hein. À Nantes, ils font un travail énorme. Ce soit dans la problématique Linky et dans la problématique 5G. Donc, y a pas mal d'endroits. C'est-à-dire que les différents collectifs ont bien compris qu'on ne faut pas seulement s'atteler au compteur communicant, mais voir un petit peu plus loin et surtout plus loin.
Merci beaucoup, Pierre. Je rappelle que tu es donc membre du collectif ACAD, anti-compteur communicant Artois d'Ouésie. C'était au sujet du développement de la 5G.
Merci de m'avoir accueilli.
Et donc rendez-vous à la manifestation à Arras hein, ce samedi 6 juin à 10h. Ce micro-rebelle hebdo se termine. Alors je vous redonne quelques éléments de contact. Hein, si vous souhaitez nous proposer des reportages, des interviews, des interventions, des activités, des initiatives à couvrir, répondeur téléphonique 03 74 71 24 87 ou courrier électronique contact@micro-rebelle.fr. On va terminer ce micro-rebelle hebdo avec le petit tip du jour. Le petit tip, qu'est-ce que c'est ? C'est le petit tuyau, le petit conseil du jour pour prendre soin de soi. C'est une nouvelle et sympathique chronique proposée par Aurélie. Je vous laisse donc avec Aurélie et ensuite, musique libre. À la semaine prochaine, portez-vous bien. Bye bye.
Petit tips du jour. Quand on a mal à la tête, on a souvent le réflexe de prendre un Doliprane en se disant que ce sera efficace. Or, le Doliprane, comme tout autre médicament, peut développer une accoutumance et devenir moins efficace. Pour éviter cela, je vous conseille d'utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée et un peu d'huile à appliquer sur les tempes et sur les poignets. Résultat frais garanti et vous n'aurez plus mal à la tête pour quelques euros. Trouvable un peu partout, en pharmacie, parapharmacie, cette huile est d'une grande aide.